Lamentation de Jérémie, chapitre 3. À part les cantiques, l'autre musique que les pasteurs apprécient, c'est la musique des pages de la Bible qui font le bruit quand les gens cherchent le passage. C'est chouette, parce que la parole de Dieu est si riche. Lamentation, chapitre 3. À partir du verset 17, c'est Jérémie qui parle et il dit, « Tu m'as enlevé la paix. » Et il parle à Dieu. « Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. » Et j'ai dit, « Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage de mon âme, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera le joug à celui qui le frappe. Il se rassasiera du pauvre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il est affligé, lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on voile la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Et on va laisser le texte juste là, au verset 39. Alors, comme un petit titre de ce message, j'ai donné ça, ceci comme titre. Il est impossible de vivre d'une manière juste en pensant d'une manière fausse. Donc on a le juste et le faux. Le schéma, le pauvre Jérémie commence avec son désespoir et sa dépression. Ensuite, il donne sa détermination et sa déclaration. Le but, eh bien, le but, c'est de nous apprendre et encourager à penser d'une façon biblique. Ce n'est pas clair pour beaucoup de gens. Au 19e siècle, en Angleterre, un homme d'affaires très riche a engagé un cab. Vous savez ce que c'est un cab? Un petit calèche, comme taxi qu'ils avaient à l'époque, afin de l'amener au quai, où il avait amarré son yacht. En arrivant là, il disait au cocher, « Vous m'attendez, parce que je ne serai pas là très longtemps. » Alors le cocher disait, « D'accord. » Ici dans Jérémie, nous avons un cas où Jérémie a commencé à se plaindre de son sort. Qui parmi nous ne peuvent pas s'identifier avec ça. Parce que, notez la progression de sa chute ici, à partir du verset 17. D'abord, il a perdu la paix. Il a dit, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Moi, ça m'arrive. Trop souvent même. Alors, il a perdu la paix. Il ne connaît plus le bonheur. Il se trouve sans force, sans espérance. Il a dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ça, c'est grave, ça. Mais l'espérance l'a déserté. À la place, la déception s'est installée. Il a le sentiment que toute sa vie est empoisonnée. Et il est abattu. Bref, qu'est-ce qu'on appelle cela aujourd'hui? Une profonde dépression. Et voilà notre pauvre Jérémie dans une profonde dépression. Donc, il faut aller chercher le Prozac. N'est-ce pas? Il faut aller voir le psy. Et il va nous dire ce qu'il faut faire. Oh, pauvre bonhomme! Mais voilà, Jérémie. Alors, comment va-t-il prendre en main cette situation si désespérée? Sa façon de conduite pourrait nous étonner, mais elle nous donne beaucoup d'espoir. Sa façon de gérer sa dépression, sa profonde dépression. N'oubliez pas que Jérémie était un homme comme vous et comme moi. Il avait les mêmes tentations, les mêmes tribulations, mais avec une différence notoire. Quelle est la différence? C'est pas l'époque non plus, hein? C'est ceci. Ses tentations et ses tribulations étaient bien pires que les nôtres. Comment le savez-vous? Eh bien, parce que nous ne sommes pas dans sa situation, lui. Il était un prophète. Et qu'est-ce qu'il devait faire, lui? Il devait essayer d'expliquer aux enfants juifs comment il faut marcher devant Dieu. C'est facile, n'est-ce pas? Comme moi devant vous, c'est facile. Parce que vous êtes tous là, vous gobez tout ce que je dis. Ah! Déjà, quelqu'un a mis un drapeau rouge, hein? Alors, la solution, parce que Jérémie donne la solution de sa dépression. C'est le Prozac, n'est-ce pas? Mais non, c'est la façon de penser bibliquement. Penser bibliquement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est impossible de vivre d'une façon juste en pensant d'une façon fausse. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, nous allons commencer avec le pauvre Jérémie et sa dépression. Point numéro 1. Au verset 21, il disait, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Alors, l'importance du mot « cœur ». Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, le mot « cœur ». Mais tout d'abord, le verbe « repasser ». Il y a beaucoup de femmes qui savent ce que ça veut dire, n'est-ce pas, « repasser ». Repasser, repasser. Pour faire quoi quand vous repassez? Pour enlever des choses qui ne doivent pas être là, n'est-ce pas? Notamment les plis. Pour enlever quelque chose non désirable. C'est ça, repasser. Alors, voilà la définition. Mieux que n'importe quel autre verbe, il fait en lui-même la combinaison des deux choses nécessaires à la repentance. Ce verbe repasser. Voilà les deux choses pour la repentance. Numéro 1, détourner du mal. Et numéro 2, détourner du mal. Et numéro 2, tourner vers le bien ou vers Dieu. Tourner vers le bien. Le principe biblique est ceci. Et j'utilise des mots qui ne sont pas forcément utilisés d'une façon figurée, mais littérale, mais ici c'est figuré. Le principe biblique c'est ceci, se dévêtir du mal et se revêtir du bien. Se dévêtir du mal, se revêtir du bien. Donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jérémie réalisait que son problème n'est pas un problème de dépression, mais un problème du cœur. Un problème du cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Qu'est-ce que ça dit? C'est un passage clé. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou, comme c'est traduit dans la Bible en français courant, car ta vie en dépend. Donc vous voyez ça? Ta vie dépend de ce que tu fais avec ton cœur. Et c'est quoi le cœur? Le cœur est le centre de notre être. Souvent on dit le cœur c'est le siège des émotions. Pas tout à fait. Les émotions viennent à cause de ce qu'on pense dans son cœur. Quand je suis fâché, c'est parce que j'ai vu quelque chose, j'ai analysé cette chose dans mon cœur et je n'aime pas ce que je vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je deviens excité, mais excité dans le mauvais sens du terme. Je me fâche. Donc, l'émotion suit ce que je faisais avec ce que j'ai vu et analysé dans mon cœur. C'est pour cela que Salomon disait à ses fils, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ce mot « cœur », c'est le poste de commandement de toutes nos décisions importantes. Notre façon de penser, de réfléchir et de raisonner est étroitement liée à notre capacité de parler. Parce que quand on dit des choses sans réfléchir, qu'est-ce qu'on dit? N'importe quoi, n'est-ce pas? Mais on a la capacité de parler. Et on a la capacité de réfléchir. Et c'est ça ce que Salomon disait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à ses fils. Raisonner, réfléchir et garder ce cœur. Autrement dit, nous pensons, nous réfléchissons et nous raisonnons aussi en parole qu'en image. C'est pour cette raison que Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » Ou, ça veut dire, celui qui l'aime accepterait les conséquences de ce qu'on dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc c'est fort ça, hein? C'est fort. Alors, l'introduction, Jérémie disait, je vais faire quelque chose avec mon cœur. Et du verset 22 au verset 26, il donne une identification de l'Éternel. Car quand on parle de l'Éternel, c'est qui l'Éternel? Comment peut-on définir l'Éternel? Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et qui est ce Dieu? C'est difficile à définir Dieu, n'est-ce pas? Alors, il a commencé au verset 22, il dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Donc, il a commencé avec cette définition, bonté, les bontés. Qu'est-ce que cela veut dire, bonté? Eh bien, on peut définir ça comme ceci, amour, grâce, fidélité, loyauté, tous ces termes-là sont identiques avec ce mot bonté. Toutes les caractéristiques d'un très cher et proche parent ou ami. C'est la toute première chose que Jérémie nous montre concernant Dieu. Sa bonté. Dans un désarroi, Il réalise que malgré tout, les bontés de celui qui a toujours toutes choses sous son contrôle ne sont jamais terminées. Et nous oublions ça. Nous oublions que Dieu a toutes choses sous son contrôle. Et c'est pour cela que nous, les chrétiens, quand nous tombons dans une dépression, nous avons une sortie que le non-chrétien n'a pas. Parce que nous savons que Dieu est là et que Dieu veut notre bien. Et il a quelque chose à nous enseigner. Et souvent, nous avons quelque chose à lui demander pardon. Parce que le Prozac, qu'est-ce que ça fait? Ça ne rétablit pas une relation avec l'individu et Dieu. Par contre, le pardon, la prière, la lecture de la parole, ça rétablit ce qui était perdu. Donc c'est pour cela que c'est si riche et si bénéfique. On continue. Le psalmiste s'est exprimé ainsi. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. David ajoutait, le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes les œuvres. Ses œuvres, pardon. Les compassions de Dieu, ses bontés, on le voit partout. Et ses bontés sont là. Et Jérémie disait, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ensuite, la deuxième identification, les bontés. La deuxième, c'est quoi? Plus fort. C'est compassion. C'est compassion. Qu'est-ce que ça veut dire, compassion? Ça, c'est beaucoup plus facile que bonté. Hein? Compassion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est composé de deux mots. Ou un préfixe et un mot. Com veut dire quoi?
Avec.
Avec. Et pâtir? Souffrir. Et donc, compassion veut dire souffrir avec, exact. Souffrir avec. Quand quelqu'un se fait mal, une personne qui a compassion, qu'est-ce qu'il fait? Il souffre avec cette personne. Il s'identifie avec cette souffrance. Et c'est ça, compassion. Donc, c'est quelque chose de profond. Autrement dit, l'attachement maternel de la femme pour son enfant. Ça, c'est une bonne illustration de compassion. David a exprimé la profondeur de cette compassion lorsqu'il a péché en faisant le dénombrement du peuple. Un acte qu'il a fait à cause de l'orgueil de son cœur. Il a décidé en son cœur. Et il le faisait. Et Dieu disait, ne faites pas ça. Mais il le fait. Voilà ce qu'il disait. Or, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Et quand Israël jetait la loi de Dieu derrière leur dos, selon Néhémie, Néhémie disait ceci, « Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés et ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. » N'oubliez pas que ces références se trouvent dans l'Ancien Testament.